Bonjour les amis, ravi de vous retrouver dans Naturellement Vôtre avec mon ami, mon compère Jean-Pierre Fleury. Nous sommes aujourd'hui exceptionnellement à la fête du livre, c'est la fête du livre, c'est au Librum Paese. Nous sommes dans ce village de Lette où depuis 10 heures les écrivains et le public se pressent dans ce magnifique village en balcon qui domine la Concador. Et nous aurons dans un instant d'ailleurs la présidente de l'association Librum Paese qui sera avec nous, qui nous donnera un tout petit peu le programme et le déroulé de cette journée. Nous sommes avec Alicia Brunindoube Moratti pour cette émission. Donc ici, il fait beau en plus, hein, il fait beau, il fait frais. Ce qui est le prof de l'aide, c'est un microclimat en plus, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le village. Moi je connais un peu la région. Comment il va ?
Ben, ça va très très bien. C'est vrai que c'est, quand on est là, on ne peut qu'aller.
Caler. Allez, bon. Oui, on disait que on va par. Moi, j'ai une idée. On en a parlé un tout petit peu avec Jean-Pierre. J'aimerais que Jean-Pierre nous raconte Histoire naturelle. Et Jean-Pierre et Igor Barrère ont créé Histoire naturelle, et qui était diffusée sur TF1. Puis ensuite, il a créé la chaîne Season, vous le savez. Mais il a tellement d'histoires à nous raconter, des histoires vécues, bien évidemment, à l'occasion de reportages qu'il a effectués et de ses magazines effectués, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Il y a notamment une anecdote sur le lac Titicaca où il a fallu mourir. Donc il nous en reparlera tout à l'heure. Mais on va donner la parole à notre hôte aujourd'hui. C'est Chantal Pantalacci qui est avec nous. Chantal, c'est la quatrième édition de Au Librum Paese, édition qui a ouvert ses portes ce matin à 10h pour se dérouler toute la journée. Une installation et une structure qui n'est pas, c'est pas négligeable quand même, hein, toutes ces tentes installées le long du village. Et l'impression qu'on a, c'est que les gens d'Olette jouent le jeu.
Oui, absolument. Bonjour tout le monde. Oui, ils jouent le jeu parce que, si vous voulez, y compris les gens du village, mais c'est surtout aussi toutes les entreprises de la région. On a quand même un taux de soutien de tous ceux qui produisent dans la région. Et c'est assez magique. Et ce qui fait que tous les auteurs et éditeurs ont répondu présents. Il y a tous les éditeurs corses. On mettra en valeur quelques auteurs du continent qui viendront. Mais tout ça, je vous révélerai ça un petit peu plus tard. Et puis, surtout, pensez que c'est une rencontre importante, familialement parlant, mais c'est surtout que les auteurs sont accessibles, ils discutent avec tout le monde, c'est bon enfant, il n'y a pas de pression, on a le temps, il fait beau, et on est sur la perle du Nebbio, ce n'est pas négligeable.
La perle du Nebbio. Bon, il y a monsieur le maire qui est juste en face, qui lui faisait les gros yeux quand même. Il faut le préciser, Jean-Pierre Lecce qui est là et qui nous accueille. Merci en tout cas de l'accueil que vous réservez à RCFM et à notre rendez-vous en particulier. Alors, on va parler d'histoire naturelle, Jean-Pierre, parce que c'est quand on parle de Jean-Pierre Fleury et d'Igor Barrère, tout de suite, et puis on le voit quand on discute avec les gens dans la rue, on l'a vu vendredi soir, cette jeune fille qui doit avoir 27 ou 28 ans, qui nous dit « voilà, moi je vous écoute, mais je me rappelle l'histoire naturelle ». Donc elle était toute gamine.
Oui, sur TF1. Elle n'était pas là.
Elle n'était pas là. Et qu'est-ce qui a prévalu à Histoire naturelle ? Comment vous avez décidé un jour avec Igor Barrère de faire Histoire naturelle ?
Alors tout ça, bien sûr, comme à chaque fois à la télévision ou à la radio, c'est une histoire de rencontre. La rencontre, elle se situe pratiquement lorsque j'ai commencé à travailler à la télévision, c'était fin 72.
C'est hier, quoi.
C'était pas hier, oui.
Avant-hier.
Voilà. J'ai travaillé sur des magazines d'actualité et donc il y avait 5 colonnes à la une qui venaient de se terminer. Donc Barrère, immense figure, des groupes, figure tutélaire et autres. Et le hasard des choses, de la vie professionnelle et de la vie, parce que c'était, pour moi c'était exactement la même chose, c'était 24 heures sur 24, toujours eu envie d'aller voir de l'autre côté de l'horizon. Je travaillais sur des magazines d'actualité, j'étais assistant et les types qui partaient, je les admirais, je les enviais. Et puis au bout d'un an, j'ai appris mon boulot et j'avais le feu sous les semelles, quoi. Il fallait que je parte. Donc je suis parti en 74 au Baloutchistan.
Baloutchistan, ouais, c'est où ça géographiquement parlant?
C'était des endroits qui n'existent plus, hélas, parce que c'est l'endroit où il y a les talibans, quoi. C'est la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan.
Et au Baloutchistan, vous êtes allé faire quoi là-bas?
On était faire avec Arnaud Hamelin, on était faire un reportage sur les rebelles baloutches. Qui étaient des durs de durs, quoi. C'est les Pashtous, les Baloutches. Enfin, c'était, moi, j'étais dans les Cavaliers de Kessel, j'étais dans tous ces bouquins qui m'ont fait rêver. J'ai repris la Khyber Pass. Enfin, j'avais 23 ans, 24 ans. Rien ne m'étonnait. On interviewait le président de la République afghane, Daoud, ou le Shah d'Iran. Enfin, tout ça, ça me paraissait normal parce que moi, je venais de ma petite cambrousse. Donc, il n'y avait pas eu entre les deux beaucoup de sas pour me préparer à ça. Et puis, très vite, j'ai rencontré Igor. Et là, j'ai travaillé sur des magazines médicaux. J'ai commencé à réaliser avec lui. Et puis, il y a un personnage qu'il ne faut pas oublier, qui était le troisième du début, c'est Étienne Laloux. Un jour, on rentrait d'un tournage, on avait fait une médicale, je crois que c'était sur la pédiatrie du côté de Rennes, et on avait pris le train. Et on était vraiment sonnés, parce que c'est pas pédiatrie, c'est un métier de pédiatre extrêmement difficile. Et on se disait qu'on changerait bien les idées. Alors Barrère, lui, était les rares moments où il bossait pas, il allait à la chasse. Laloux, lui, était complètement avait du sel, une grande quantité de sel dans les veines. C'était un pêcheur en mer convaincu. Il a écrit un très beau bouquin qui s'appelle Le goût du sel, d'ailleurs. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire un magazine sur la chasse, la pêche, la nature, etc. Moi, j'étais le troisième larron, j'étais un petit bonhomme là-dedans. Et gentiment, ils m'ont proposé qu'on le fasse tous les trois. Donc ça a été le début de l'idée de cette aventure, qui a été oubliée. On avait 1000 idées à l'heure comme ça. Et est arrivé 1981, où vous vous souvenez peut-être ce qui s'est produit, il y a eu en tout cas un cataclysme à la télévision, puisque d'un seul coup, il fallait trouver des socialistes. Alors, il y a eu une génération spontanée, hein, mais il y en avait un qui était historique, c'était Igor Barrère, qui était conseiller municipal d'un tout petit bled à côté de Chartres, conseiller FGDS.
Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Ce qui veut dire que les portes se sont ouvertes plus facilement, donc, grâce à Igor.
Oui, parce que Desgroupes, on avait une société, Desgroupes est devenu patron de la 2, ce qui est quelque chose d'énorme. On a proposé la direction de la 1 à Barrère, qui a refusé, qui a dit « moi je veux être directeur général », donc bon, il n'a pas été. Et il y avait donc le téléphone dans notre boîte, ça sonnait en permanence. Moi, j'étais parti pour être patron de la 5, si j'ose dire, enfin, ou la 55 plus exactement. Et il y en a un journaliste qui appelle Barrère en disant « qu'est-ce que vous avez comme projet ?» Alors Igor, bien sûr, se met en retrait de tout ça en disant « pas d'histoire politique, c'est de continuer les projets que j'avais émis, parce que c'était très long à l'époque, peut-être plus simple, mais c'était long quand même. Et donc il dit, complètement au bout d'interview, ah bah oui, on a un projet, c'est de faire un magazine sur la chasse, la pêche, la nature. Ok, bon. Et puis 4 mois après, enfin, c'est écrit, l'interview paraît dans Télé 7 jours, je crois. Et 4 mois après, le patron des programmes de la Une, Harris, demande à Igor, mais ton magazine sur la chasse et la pêche, là tu le fais où, Igor? Il s'en souvenait même pas. C'était le truc. D'accord. Donc, il n'y a qu'à le faire. Je te le prends. Alors, bon, ça a été comme ça. Ça a été merveilleux. Bon, on claque dans les doigts. Après, ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des histoires d'argent. Et on était ravis parce que Barrère et autres, et moi, on était intermittents du spectacle. Donc, il faut se souvenir que quand on est intermittent du spectacle, le téléphone, il sonne ou il sonne pas. Hein. Mais j'allais dire, il faut qu'il y ait quelque chose dans la gamelle, quoi. Donc on était en permanence à recherche de boulot, ou en tout cas dans l'inquiétude de pas en avoir dans les. Et là on avait signé pour 26 minutes. Donc c'était le pactole, on avait du boulot pour les 9 mois à venir, quoi. Et puis, ça s'est fait. Là, l'émission a continué. Je crois qu'on a dû tourner pendant 27 ou 30 ans, enfin un truc comme ça, quoi. Par une espèce de tacite reconduction, des fois on se disait, ils nous ont peut-être oubliés, donc faut pas ça continue.
Alors,
comme ça.
Ce qui est assez étonnant quand on regarde les histoires naturelles, c'est qu'il y avait un peu tout. C'est-à-dire qu'il y avait de la gastronomie parce que vous alliez chez les chefs, et là vous vous êtes régalé, bien évidemment, au sens propre, qu'on vous sent
pas si mal que ça. Ouais.
Il y avait pire dans la vie. Ouais. Il y a eu tous ces reportages, tous ces docus qui ont été faits à l'étranger. On va parler bien sûr de l'Amérique du Sud, parce que là il y a des épisodes.
Oui, c'est parce qu'on a parlé du Titicaca, ouais. C'est un nom qui nous amuse.
Mais sur l'Amazon, par exemple, oui, bien sûr. Vous avez dû faire 20 fois le tour du monde, quoi, avec Igor.
Ouais, je l'ai fait, oui. Oui. Ça veut rien dire, une centaine de fois, mais j'étais à pied à cheval en voiture. Je veux dire, effectivement, j'ai énormément crapahuté sur.
Y compris en Corse, d'ailleurs.
Y compris en Corse, on a filmé. Il y a des choses qui maintenant feraient partie de la sociologie. C'est-à-dire qu'on a filmé les gens, enfin, on en a parlé souvent, du côté du Haut-Aravo, des gens qui attrape les loirs pour les manger, quoi. Donc ça, c'est effectivement, on le sait pas. C'était, alors, je vois des regards d'étonnement. Et dans le Haut-Aravo comme ailleurs, d'ailleurs, les derniers feuillus sont des hêtres, hein. Donc, et ces hêtres, ils ont très souvent des trous. Et dans ces trous, il y a très souvent des loirs. Alors, les loirs, c'est des petits rongeurs.
Qui ressemblent à des écureuils, mais qui n'ont pas la queue en panache.
Voilà, c'est ça. C'est pas non plus des lérots. Et qui, à l'entrée de l'hiver, sont pleins de graisse.
Mmh.
Et donc, c'est un petit peu l'histoire des ortolans, etc. Donc, c'est la graisse qui est bonne. Et les gens, donc, enfument les loirs, quand ils sortent, bon, un petit coup derrière les oreilles, et puis après, bah, c'est délicieux.
Vous avez goûté ça ?
Oui, bien sûr. Alors, les gens confondent un petit peu tout ça, disent des écureuils, il n'y a pas d'écureuils en Corse. Hein, c'est... Mm-hmm. Donc, disent aussi des marmottes, parce que c'est, comme c'est un animal, qui est un rongeur aussi d'ailleurs, et qui va rentrer, qui rentre en hibernation à peu près à la même époque, donc il y a une confusion avec tout ça.
Alors, c'est sûr que les défenseurs de la nature qui ont regardé ces émissions ont dû crier, ont poussé des cris d'orfraie.
Non.
Ben, sur les ortolans, par exemple, ou pour les manger, on les faisait s'estourbir dans de l'armagnac quand ils étaient vivants.
Ça me plaît, oui.
Ah ouais. De mettre en bordée un poisson, un oiseau, pour pouvoir le cuire, oui, c'est étonnant. Quoi.
Bah, c'est quand même, on était beaucoup plus près d'une France, d'un monde des années 50, qui était peut-être cruel, mais qui était, j'allais dire, naturel. La notion de cruauté et autres n'était pas du tout la même. Il est certain maintenant qu'on peut pousser à l'extrême, s'interroger ce que c'est que la cruauté, se demander si ce gentil toutou serait pas mieux d'ailleurs tranquille dans le maquis plutôt que d'avoir une laisse rose, et se demander s'il n'y a pas des gens qui le regardent.
Oui, ça c'est vrai aussi. Oui, Chantal n'est pas contente. Mais oui, alors, non, Chantal, mais c'est vrai que ce que raconte Jean-Pierre aujourd'hui sur Histoire Naturelle, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il filmait une réalité, il faut se remettre dans le contexte. Et souvent, Jean-Pierre, c'est condamné maintenant, mais. C'était historique, culturel, il n'y a pas
à s'excuser. Je veux dire, c'était comme ça, simplement. La cruauté, est-ce que c'est le fait des humains? J'en sais rien. C'est effectivement, c'était naturel. Alors, on va parler de tradition, peut-être. La chambre des supplices était peut-être une tradition aussi. C'est très bien qu'on oubliait tout ça. Mais alors là, je vais devenir sérieux. C'est que, il y a une chose qui est extrêmement dommage. C'est que notre humanité, je dis bien notre humanité, est en train de se dénaturer. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas quelque part politiquement correct, mais dans quelle est cette politique, c'est quelque chose qu'il faut éliminer. Et on en arrive à des aberrations. On oublie complètement, et qui sont d'ailleurs des insultes aux gens qui continuent. Il y a encore des gens à Bornéo, il y a encore des gens en Amazonie qui continuent à vivre cette vie-là. Alors effectivement, on confond absolument tout, le réchauffement climatique, le fait de manger de la viande ou pas de manger de la viande, etc. Et donc tout ça se mélange. Il fait beau, j'ai pas envie de me lancer là-dedans.
Mais là, il y a raison. Alors il y a ces histoires qu'on va continuer à nous raconter, bien sûr. Jean-Pierre, vous, ça vous parle, Histoire Naturelle, Chantal, ou pas du tout?
Oui, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup les animaux. Je n'en ai pas chez moi parce que
je
ne vis pas. Non, voilà. Mais sinon, si les animaux, c'est partout. Il faut les respecter, c'est sûr. Mais de temps en temps, penser que... Alors là, je vais peut-être faire hurler tout le monde, mais faire penser qu'on ne peut pas faire de construction parce qu'il y a la migration des chauves-souris, si vous voulez. Moi, je pense que la première chauve-souris, elle se prend le mur, les deuxièmes, elles suivent et elles vont ailleurs.
Je pense qu'elle ne se prend pas le mur, en plus.
Mais voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, il faut faire attention à tout le monde, bien sûr, mais de temps en temps, se dire qu'on ne peut pas faire la réfection d'un pont parce qu'il y a la traversée des batraciens. D'accord, donc là, on fait un petit tunnel. On n'a qu'à leur faire même un péage, s'il faut. Non, mais si vous voulez, il ne faut pas tomber dans l'extrême de tout. Voilà, c'est tout ce que je veux dire.
Bon.
Il faut protéger tout le monde.
Jean-Pierre,
on fait un crapauduc. Ça s'appelle.
Un crapauduc, ça s'appelle.
Mais hommage à certaines personnes qui sont des vrais défenseurs, plutôt que de simplement de se, sachant même pas au départ que la différence entre une grenouille et un crapaud. Il y a des gens qui, lorsque c'est le rut du crapaud, c'est-à-dire c'est d'ailleurs la première manifestation du printemps, c'est au milieu du mois de février, le crapaud qui fait pas de bruit, hein, donc on confond aussi avec les grenouilles, il y a que le crapaud vert qui est ici, le Bifou Viridis, qui a des tout petits cris énamourés, autrement le crapaud se tait.
Vous pouvez faire le cri du crapaud énamouré?
Il faudrait qu'il y ait une crapaud qui puisse, si vous m'en trouvez une, c'est une... Et ça ressemble un petit peu au cri, alors que tout le monde entend ici, au cri du petit duc.
Ah d'accord.
Voilà, vous faites...
Et
ben voilà,
c'est bien le petit duc.
Oui, ou la crapaude.
Ou la crapaude.
Ah, bon. Et donc ce sont là, et il y a des gens, on s'aperçoit que tous les crapauds d'un canton sont très casaniers. Les crapauds, ça vit pas dans l'eau, sauf au moment où ça se reproduit. Donc ils vont tous, la mare du canton, tous les crapauds du canton convergent vers cet endroit. Et donc,
c'est une partouze, quoi.
C'est pas moi qui l'ai dit, je sais pas ce que ça veut dire.
Non, pour être plus joli, ce serait plus le Club Med.
Oui, voilà, ouais, Club Échangiste.
Ce sont des...
C'est gentil pour les gens du Club Med, qui vous écoutent. Hein.
Des amours collectives.
Des amours collectives, d'accord.
Avec, d'ailleurs, un truc qui est très difficile, c'est que, en général, dans la nature, il y a un sexe ratio qui est 50-50. Et là, il y a beaucoup plus de mâles que de femelles. Donc la femelle, elle est courtisée, ce qui fait que là, ça, on ressemble à... Comment vous avez dit, je ne me rappelle plus le mot.
Je ne sais plus.
Bon, à ses amours collectives. Et donc, alors avant qu'ils arrivent dans la mare, il y a très souvent, comme ils convergent, il y a le risque de se faire écraser dans la forêt de Rambouillet ou ailleurs. Et donc, il y a des gens qui mettent du tissu, qui font une haie artificielle, du plastique, pourquoi pas. Les crapauds butent dedans, ils longent ça, ils tombent dans un seau. Et donc, après, il y a les gens qui sont là 24 heures sur 24 pendant les 3 semaines que ça dure, qui font traverser avec le seau et après qui vont les mettre dans la... Ça, c'est des gens qui font du bon boulot.
Et vous faites ça, Gendal, vous avez un seau
Non, simplement qu'on a un concert, généralement, pas loin de chez nous, effectivement, au beau jour, mais c'est vrai qu'on
c'est
pense...
C'est des grenouilles.
Oui, je pense que les grenouilles sont très gentilles.
Qui sont dans les arbres.
Bien sûr.
Oui, comme les saucissons.
Non, là, ça y est. Mais cela dit, les cuisses de grenouilles, c'est pas mal non plus. Mais les rainettes, c'est l'étonnement de tous les gens. Ils entendent une grenouille, ils sont sûrs que c'est une grenouille, et puis ils cherchent par terre. La grenouille, elle est pas là, elle est dans l'arbre. Une fois sur deux, c'est une rainette, et les rainettes sont ici, en particulier, arboricoles.
Ah bon, mais parce qu'en fait, elles font les Jeux Olympiques, en fait. C'est ça, elles démarrent dans les arbres, ça se lance au périlleux avant, arrière.
Oui, on peut voir ça comme ça, mais les grenouilles, elles font surtout la natation.
C'est ça.
La brasse.
Oui,
la
brasse, c'est pour ça qu'elles sont très musclées.
Oui, voilà. Mais c'est pour ça qu'on nage la brasse.
D'où les cuisses.
D'où les cuisses, exact. Alors, Jean-Pierre, oui. On voit qu'il y a tout le temps ce lien permanent entre ce qui existe ici, ce que vous avez vécu ailleurs.
Constamment, oui.
C'est la nature qui le veut. Moi, j'aimerais, avant qu'on parte pour l'Amérique du Sud, j'aimerais qu'on vienne sur les ortolans, parce que vous m'avez raconté ça hier soir.
Ah bon.
Moi, je suis resté un peu scotché sur comment... Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est interdit ou pas, maintenant, les ortolans.
Non, c'est interdit.
C'est Maïté qui avait vulgarisé la cuisine de l'ortolan en disant « Excusez-moi, je me cache derrière une massagette pour leur sucer le derrière. »
Elle ne se cachait pas.
Elle ne se cachait pas.
Non.
Bon, on le suçait derrière. Oui, oui, oui.
Non, mais les ortolans, ce sont
des
bruants, donc des oiseaux qui ressemblent à des moineaux un petit peu plus grands. Qui ont la particularité, ils sont migrateurs, ils arrivent dans les Landes, parce que ça se passe dans les Landes, vers le mois d'août, on les attrape avec des matoles, c'est-à-dire qu'on les attrape vivants, parce que c'est la condition qu'ils soient vivants, et ces petits piafs-là ont la mauvaise idée, au lieu de faire comme la plupart des animaux qui sont mis dans un univers carcéral en cage, de réagir par l'anorexie, eux, ils réagissent par la boulimie. Donc ils fabriquent une graisse exactement comme celle des Loires. Ils fabriquent de la graisse et c'est cette graisse qui est succulente. Alors, où Jean-Pierre, que j'arrive, c'est qu'à quel moment...
On a dû être enfermé quand on était petit.
Voilà, oui, mais il faut faire gaffe parce qu'on ne va pas tarder...
On n'était pas anorexique.
On ne va pas tarder à être mûr par rapport à ça. Alors, attendons la suite. C'est que pour savoir s'ils sont mûrs, donc le Landais prend l'ortolant, lui souffle à la hauteur du trou de balle, et donc ça, on va attendre un peu, et pour savoir si c'est gras à souhait. Et si c'est gras à souhait, l'ortolan est noyé. Mais noyé dans un verre d'Armagnac.
Elle est pas belle, la
vie. Donc, l'ortolan, j'en sais rien, là, on est en train de se faire.
Il meurt en bordée.
J'ai écrit quand même des bouquins sur les oiseaux.
Oui, tout à fait. Oui, je voulais dire. Oui, aux éditions Albia,
c'est pas des livres de cuisine. Donc, tout ça, pour peut-être dire vaguement, redevenir sérieux si j'y arrive, c'est que pour moi, il n'y a pas. La chose importante vis-à-vis de la nature, c'est pas tellement de savoir ce qu'on fait avec ce qu'il y a dans la nature, c'est avant tout d'essayer de faire en sorte que cette nature existe toujours, au moins que les milieux existent toujours. Alors ça veut dire, bien sûr, ne pas servir de tous les insecticides possibles, etc., etc., ne pas assécher toutes les zones humides. Une fois tout le monde se sera mis d'accord là-dessus, il sera temps de savoir si on peut consommer des ortolans plutôt que des poulets en batterie, etc. Tout ça, ça me regarde pas, c'est comme ça.
Chantal.
Oui, mais effectivement, maintenant, on fait un petit peu d'exagération dans tout. Je suis bien d'accord avec vous, Jean-Pierre.
Un petit peu, oui.
La seule chose qu'il y a, c'est qu'en faisant une petite exagération, est-ce qu'on va pas obtenir une petite chose comme ça à la fin?
Et bien sûr.
En exagérant un peu, on obtiendra quand même un minimum.
Mais tout à fait. Mais ça fait 35 ans qu'on a ce langage-là. 35 ans qu'on nous dit, ah oui, si on savait que c'était comme ça, ça change pas beaucoup. On va pas se lancer savoir que si la violence est quelque chose d'efficace. L'exagération, non, à mes yeux. Je veux dire, c'est le fait d'aller foutre en l'air des déboucheries ou dans peu de temps, ça va être si les gens ont suffisamment de courage pour le faire, d'aller virer des porcs qui sont en cours d'élevage ou autre, ça va se produire, c'est dans l'air du temps. Alors, pour jouer les oiseaux de malheur, il peut y avoir aussi, et ça, dans très peu de temps, je ne serai pas là pour le voir, j'espère, Les fleuristes vont fermer, par exemple. Ça, c'est totalement évident quand on est dans le... Ben, bien sûr, vous vous rendez compte, la souffrance d'une plante qui pousse comme ça et qu'on coupe et qu'on met dans un vase, c'est dégueulasse. Hein, quand vous savez que la plante, elle a 40% de son patrimoine génétique qui est le même que le nôtre. Si vous commencez à dire des choses comme ça, les bonsaïs, il n'y a pas plus dégueulasse que ça. Une plante en pot, elle est dans un univers carcéral, elle a rien. Alors, bien sûr, là, je suis en train de... C'est déconnant, ce que je dis. Mais c'est pas plus déconnant qu'un grand-père qui reviendrait sur cette terre, qui traverserait le village comme on faisait autrefois parce qu'il avait tué un lièvre en le montrant, parce que c'était bien. Là, maintenant, on le traite de salaud. Donc, c'est à peu près la même chose. Donc, méfiance.
Parler des fleurs, je vais faire des économies.
Oui.
On va écouter une chanson. Bah, on est ici à Olette pour la fête au Libro Paese et à l'invitation de l'association, en présence, bien sûr, de Chantal Pantanage qui est avec nous. Il y a un public, donc si vous voulez poser des questions à Jean-Pierre, vous n'hésitez pas, on va vous passer un micro. Et nous sommes toujours ici avec Domé Murati et Alicia Bonini. Une chanson, on se retrouve tout de suite après.
Naturellement vôtre, quand vous voulez en podcast, sur bleurcfm.co.
Et nous sommes à Olette dans le cadre d'Avesta di un libro un paese. Nous sommes en plein cœur du village, au Logudet à Vontana, accueillis par l'association Libro un paese. La présidente est avec nous, Chantal Pantanach. Il y a le maire aussi qu'on verra tout à l'heure avant la fin de notre rendez-vous, qui nous parle un tout petit peu de cette commune qui est en plein développement, puisqu'il y a plus de 1600-1800 habitants, je crois. Alors, il faut préciser une chose, Jean-Pierre.
Il y a de la fumée.
C'est que la commune d'Olette, elle va jusqu'au pont en fer de Saint-Florent. C'est une commune qui est assez étendue. Ouais. On va revenir, bien sûr, sur cette histoire d'histoire naturelle, bien évidemment, avec Igor Barrère. Mais je crois qu'il y a Anita qui a une question à vous poser sur votre livre, sur les oiseaux, je pense. Anita.
Oui, bonjour. Je vois que vous sortez un livre sur les oiseaux de Corse. Là, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, abordé. Les éditions Albian ont fait un magnifique ouvrage, si je peux le
citer. Ils sont là, d'ailleurs, aujourd'hui.
Ils sont là aujourd'hui, on les remercie. Et est-ce qu'il possible de nous dire qu'est-ce qui vous a pris de faire un beau livre, ça c'est normal. Mais les illustrations
l'iconographie est magnifique. Il en a fait un d'ailleurs sur les 100 plus beaux oiseaux de France où l'iconographie était superbe.
Alors, je vais d'autant plus facilement parler de l'iconographie que bien sûr c'est pas de moi. Ah, c'est pas moi qui ai fait ces dessins. J'ai fait appel à quelqu'un que d'ailleurs qui le sait pas, et puis j'espère rencontrer le plus tard possible, puisque c'est une personne qui est morte il y a une centaine d'années.
Oui, on va attendre un peu.
Donc illustrateur anglais, Pierce, il s'appelle entre autres. Enfin, il y en a plusieurs, et qui donc était à la fin du siècle d'avant. Encore avant quoi.
Au 19e.
Voilà, était des naturalistes peintres. Qui partait justement avec les naturalistes. Il n'y avait pas de photos. Et c'est à ce moment-là, c'était la quintessence de cet art-là, puisqu'ils étaient à la fois naturalistes et peintres. Et ces gens-là savaient, sans caricaturer, savaient marquer les traits qui faisaient qu'on pouvait reconnaître une griffe movie, d'une griffe draine, etc. Je pensais aux griffes, je ne sais pas pourquoi, peut-être. Parce qu'on
a mangé une pizza qui s'appelait la bovie hier soir, donc ça l'a marqué.
À la Litorne, qui était là. Ça, c'est des choses importantes. Il y a 4 espèces de griffes, enfin bon. Donc, ces choses sont dans le livre. Moi, j'ai abordé ce livre parce que, alors, j'ai essayé à la fois d'être poète et ornitho, ça tombe très bien, là aussi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Mais par le biais des mots, qui sont quelque chose qui est très important pour moi. Et donc, dis-moi comment tu t'appelles. Alors, en Corse, je me suis fait aider. En latin, bien sûr, aussi, je me suis fait aider. En français, vaguement, là, je me suis fait aider parce que j'ai la chance d'avoir une merveilleuse bibliothèque. Et que, j'ai de la gourmandise à chercher et de la jouissance à trouver. Par exemple, ça me vient comme ça. Hein, c'est la fameuse huppe que tout le monde connaît. C'est l'oiseau qui étonne le plus, qui arrive, qui est une migratrice. Bon, la huppe, bien sûr, parce qu'elle a une huppe, mais pourquoi s'appelle-t-elle la huppe? Parce que son chant, c'est ou pas. Hein. Alors qu'elle pupule, d'ailleurs. C'est des mots superbes. Savoir que la mésange zinzinule, moi, ça m'amuse. Ça fait partie de ma gourmandise. Ça sert à rien, mais vous pouvez le dire ce soir, la mésange zinzinule. Le gécajol, le criaille ou cajol, enfin l'aigle glatti, le faucon oui, enfin on a la chance d'avoir un vocabulaire d'un vieux pays qui est plein de ces mots-là, qui sont des mots oubliés. Et moi j'aime bien aller taper sur l'épaule de ces mots oubliés qui sont oubliés dans des dictionnaires d'il y a une centaine d'années. Je vais les voir, ils sont un peu assoupis, je vais les réveiller en douceur, je leur dis est-ce que tu veux bien encore servir une fois.
Mais le choix des 100 oiseaux, il y en a 100 dans cet ouvrage, au même titre qu'il y a eu les 100 plus beaux oiseaux de France.
Non, je ne sais pas s'il y en a 100, je ne l'ai pas lu.
Moi, j'ai compté.
Je n'ai pas lu, moi.
Mais je l'ai compté, moi.
D'accord.
Il s'est fait comment? Parce qu'il y en a plus que 100.
Ça, il faudrait demander à Bernard Biancarelli. On en a retiré, bien sûr. Il y en a plus que 100, de toute façon, dans le bouquin. Il y a, en gros, sur le continent, sur le monde, il y a environ 12 000 espèces d'oiseaux. Sur le continent, il y en a 650. Et là, ne le dites pas trop fort, en Corse, il y en a que 350. Mais alors là-dedans, c'est très compliqué. Il y a les migrateurs, ceux qui migrent mais qui sont sédentaires dans la même espèce. On rappelle quand même qu'il y a deux trésors corses. Parce qu'ils ne sont qu'en Corse. Donc,
pas être barbu.
Non.
Non.
Ça continue. C'est pas là. Hein. J'ai pas à être barbu, il est sédentaire, c'est différent.
Il est de chez nous, de toute façon.
Oui, sauf qu'alors, pour le moment, et tant mieux, enfin, tant pis, parce qu'il fallait le faire, parce que la situation des j'ai pas à être barbu est dramatique, il y en a plus assez. Il y a actuellement, on en a lâché deux venant, je crois, de Roumanie.
De Roumanie, oui.
Donc là,
pour repeupler.
Ouais. Non, les deux seuls qui soient endémiques. Endémiques, ça veut dire qu'ils ne vivent qu'à un endroit. Alors l'endroit, ça peut être la Terre, on est d'accord. Mais la Corse, si les gens qui voient soit un Venturon Corse, qui est un tout petit piaf qui ressemble à un serin, soit une Citelle Corse, qui est aussi un petit piaf qui est en général le long des Corses des grands pins, là, ils sont sûrs qu'ils sont en Corse parce qu'il n'y a que là qu'ils existent. Et une petite anecdote, la Citelle Corse, il y a la même qui il y a une Citelle sur le continent qui s'appelle la Citelle Torchepeau, mais qu'on trouve pas ici. De même que bien sûr on trouve pas la Citelle Corse sur le continent. Et cette Citelle Corse, c'est le dernier oiseau qui était répertorié en Europe. Ça date des années 1880. Et la Citelle Corse a la particularité d'avoir la tête noire. Mais pas de peau, le type qui l'a découvert, c'est un Anglais, il s'appelle White Eddie, donc la tête blanche. Le moyen mnémotechnique, c'est de savoir que cette Citelle-là a la tête noire.
Alors, on va pas parler des races endémiques en Corse.
Des
espèces. Ouais, ils me disputent à chaque fois, je me fais pourrir à chaque fois. J'aimerais qu'on revienne à votre vie, c'est-à-dire histoire naturelle. Ça vous a amené à parcourir des pays lointains. Je me rappelle des anecdotes sur l'Amazonie, notamment. Vous avez rencontré, vous avez vécu, parce que quand vous alliez sur place faire ces tournages, vous y passiez, en général, c'est pas une semaine.
Non,
c'était, il y avait une immersion complète.
Ah oui, de toute façon, c'était. Moi, je suis allé même d'ailleurs en France. J'ai dû me poser en avion, je sais pas, 50 fois à Toulouse et je suis rentré une fois dedans. Je partais directement vers les endroits qui m'intéressaient, c'est-à-dire la pleine nature. Donc effectivement, en Amazonie, là, on peut pas, ça s'organise, on peut pas faire ça comme ça tout seul, et parce que le danger est absolument partout et la responsabilité. Moi, je partais, j'avais une équipe, on était quatre, j'étais quand même chargé de ramener les quatre personnes en bon état et aussi et surtout de ramener un documentaire de 52 minutes.
Alors on a une question, je pense, je sais pas, Jean-Pierre a le micro, c'est une question à poser. Je vous rappelle ici à Oletta pour un libre un paese. Jean-Pierre Lecce, une question.
Oui, une question, deux questions. La première concerne le Milan. Le Milan, donc, est semble-t-il un migrateur.
Oui.
Et ici, il semblerait qu'il soit présent toute l'année. Alors, est-ce qu'il y a, je dirais, un Milan particulier sur la Corse ?
Non, alors, il y a deux espèces de Milan. Il y a le Milan royal et le Milan noir. Ici, on a la chance, en Corse, de pouvoir voir la couleur de ces oiseaux. En général, quand on regarde un rapace, il est en l'air. Et donc, on le voit à contre-jour. Tandis qu'ici, avec les hauteurs, on a la chance de la. Et puis, ils sont quand même sympas. Ils aiment se montrer parce que, depuis quelque temps, ils sont plus accueillis avec du plomb. Hein, parce qu'autrefois, j'ai vu un oiseau, je savais pas ce que c'était, pan. Hein, c'était la. Puis après, on demande. Donc, ils sont à la fois migrateurs et sédentaires. Il y a des populations qui restent pendant l'hiver. Et il y en a qui partent vers l'Afrique. Là, quand on les voit en Afrique, ils sont déjà beaucoup moins majestueux parce que ils vont manger dans les ravins ordures. Ils sont avec les goélands, avec d'autres rapaces. Là, d'un seul coup, ils deviennent évidemment charognards, quoi. Ce qui est pas forcément, il n'y a pas de jugement de valeur puisque l'oiseau emblématique de la Corse, c'est l'altor. L'altor qui est le gypaète, et le gypaète, c'est un charognard. Mais je tiens à rappeler à tous les gens qui mangent de la viande, hein, que sauf à être chasseur, ces gens-là sont charognards, puisque la définition d'un charognard, c'est un animal qui mange une viande qu'il a pas tuée lui-même. Donc c'est quand même assez largement ce qui se passe tous les jours chez le boucher.
Et le Milan, puisque Jean-Pierre, une deuxième question.
Deuxième question, ça concerne les hirondelles.
Ouais.
Parce que, bon, moi je me souviens ici, il y avait des hirondelles en quantité. On voyait des nids d'hirondelles pratiquement toutes les fenêtres, etc. On n'en voit pratiquement plus. Alors, quelle est la cause de ce départ des hirondelles ?
C'est pas le départ, c'est la disparition. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'hirondelles. Il y a beaucoup moins d'hirondelles pour une cause très simple, c'est qu'on est au bout de quelque chose. On a balancé tellement de saloperies dans la nature. Je pense à tous les trucides, hein, ce qui tue les limaces, ce qui tue les... On est constamment plein de... On veut plus supporter les moustiques parce que les moustiques ça pique. Donc les moustiques, quand vous mettez de la pommade, etc., les moustiques ils prennent une certaine dose. Si elle n'est pas létale, ils sont pleins de ça. Les hirondelles vont gober ça et après elles sont... La génération d'après, c'est très court, c'est l'année suivante, les œufs sont clairs, etc. Et autrefois, il y avait une chose qui était fantastique, c'est que ces hirondelles migrants allaient se refaire une virginité, une santé à l'endroit où elles migraient, c'est-à-dire vers l'Afrique. Maintenant, l'Afrique, elle est pleine de pesticides aussi. C'est la même chose pour les canards, c'est la même chose pour absolument tout. Donc, c'est effectivement totalement navrant de ne plus avoir le gazouillis des hirondelles. Là, il y a quelque chose qui va se reproduire tout à l'heure, parce qu'on a la chance ici d'avoir des martinets, qui ne sont pas les mêmes bestioles que les hirondelles, on est d'accord.
Martinets voilà, qui reviennent, parce qu'ils avaient disparu
oui,
aussi.
Oui, mais oui, parce que... peut-être que, justement, pourtant, les martinets, ils ont besoin d'une quantité extraordinaire. Alors, on va parler des oiseaux, mais il faut trouver le bouton arrêt, hein, une fois que j'ai commencé. Moi, c'est une... les martinets, c'est quelque chose de fantastique. Vous avez la chance d'en avoir. Il y a la maison qui est là-bas en ruine. Je suis persuadé qu'il y a des nids de martinets dessus. Hein. Donc on la décrit, c'est complètement escarpé. C'est j'allais dire un nid d'aigle. C'est donc une maison qui doit être abandonnée depuis 20 ou 30 ans. Et je suis sûr qu'il y a c'est vraiment l'endroit où il peut y avoir des nids de martinets. Les martinets, donc, sont pratiquement les derniers arrivés de migration et pratiquement les premiers qui repartent. Et là, il faut faire très vite, donc la construction d'un nid, et ensuite la ponte et la couvaison, et ensuite il faut nourrir les petits. Et là, c'est exténuant, je ne vous souhaite pas d'être un martinet. Il y a des gens, des spécialistes qui ont déterminé, qui ramènent par jour, il y a 10 000 moucherons ou moustiques qui sont ramenés dans le nid. Alors, il y a une centaine de voyages et avec une centaine de moucherons agglomérés. Donc, ça fait 10 000. Ça dure 3 semaines. Au bout de ces 3 semaines-là, les petits pèsent 3 fois le poids des adultes. Et les petits...
restent dans le nid.
Ils volent.
Ah, ils volent à ce moment-là.
Alors, juste pour dire, le nom latin de ces bestioles-là, c'est Apus apus. Apus apus, ça ne veut pas dire qu'ils sont pleins de puces. Ça veut dire qu'ils n'ont pas. Les anciens considéraient qu'ils n'avaient pas de pieds. Vous avez tous fait l'expérience de voir un martinet par terre. Il peut pas repartir. Donc le petit, il est très gros, 3 fois le poids des parents. Il prend son essor. Hein, le mot essor vient de là, prendre son essor. Ça veut dire qu'il s'envole et il va se poser 2 ans plus tard.
Ah, il se pose jamais.
Il se pose jamais. Il dort en l'air, il mange en l'air et il s'envoie en l'air puisque c'est là-haut que ça se passe. Donc c'est quelque chose
et
de fantastique.
Quoi, et le prédateur, c'est pas le milan ?
Non, le milan, c'est les faucons. Le milan, c'est pas un gros rapide. Hein. Le milan, il est guère plus rapide qu'une buse ou autre. Non, il est un peu lourdeau, le milan. Le milan, il va attraper des campagnols quand il y en a. S'il y avait des grenouilles ou autres, ça, il va les prendre. Mais ce sont tous les faucons qu'il y a, alors qui sont sédentaires ou qui sont migrateurs. Au mois d'octobre, il y a toutes sortes là dans les montagnes. Il y a tous les faucons, les cobettes, les faucons obreaux qui nichent ici, qui sont des tout petits trucs comme ça que vous voyez passer une flèche comme ça. Et là, ils sont. Ça, c'est vraiment des prédateurs.
Ils sont sédentaires, ceux-là.
Ils sont sédentaires et migrateurs.
Et migrateurs aussi. Une autre question, Jean-Pierre.
Une dernière question. Depuis que vous êtes, que vous connaissez, que vous intéressez, je dirais notamment aux oiseaux.
Ça fait longtemps.
Aux oiseaux corses.
Ouais.
Est-ce que vous avez constaté la disparition de certaines espèces?
Non, parce que c'est moi je suis pas du tout un systématique, si vous voulez. Moi je me réjouis quand j'en vois. Et peut-être par l'acheter, j'ai pas envie de constater qu'ils sont plus là. Parce que je me dis que peut-être c'est pas parce qu'ils sont pas à cet endroit-là qu'ils vont pas être là-bas. Les conversations qu'on a, cette année, j'ai vu énormément de chardonnerets chez moi, énormément, enfin peut-être moins qu'avant, mais il y a d'autres endroits où les gens me disent "Oh bah j'ai pas vu de chardonnerets." Donc, non, j'ai pas constaté de disparition qui semble être définitive, quoi. J'en sais rien. Vous savez, ça me fait... Je suis un peu dubitatif quand les gens disent on a compté 421 861 canards. Bon, grosso modo. Voilà.
C'est vrai aussi. On va se retrouver bien sûr ici à Aulette, où la fête bat son plein avec des éditeurs, des éditions qui sont là, des écrivains bien sûr, à l'invitation de nos Libre Paez. On va se retrouver ici avec Jean-Pierre Fleury, bien sûr, l'équipe d'RCFM, et Olivier Balvino qui nous a rejoint parce qu'il y a du soleil, comme ça il peut bronzer. Et il y a Domé Mourad et Alicia Brunin. On écoute une chanson, on se retrouve tout de suite après.
Gelus e bestudu di nuli neri, odio do paeso mariendolo, per aver cuspirato contra un forestero, t'appigliato d'amore a noi un figliolo. Tanti mesi passati aspettò do preteso, per tutto un morosaglia senza più da notizia, solo che le giornate ha portato tanto peso, e casca da sentenza tu non la sabia. Oh Maria gentile, Maria d'amore, eroica d'un tempo e dona d'onore. A Roda con sei altri paesani, senza nessun pietà e li sono stati condannati, a Bena capitale per un delitto minore, t'ha pigliato una vita, t'ha pigliato un dolore, questa notte di settembre sole senza paura, coraggio si è andata senza manco più credere, e ritrovò Vernello e Italia sepoltura, malgrado l'ordine più forte era dovere. Oh Maria gentile, Maria d'amore, eroica d'un tempo e dona d'onore. Ci ha creduto assato coraggioso, quanto sincerità a tutte è convinto, si sta da razziata mai perso da sposo, e tutti resti sola e li hanno vinto. Oh Maria, cosa ne resta oggi è dato storia, solo quattro muri di una casa sfalata, in fondo a un paese giusto per la memoria, un tempo vi si è piantato ad una mente impetrata. Oh Maria gentile, Maria d'amore, eroica d'un tempo e dona d'onore.
Naturellement vôtre, le dimanche de 12h à 13h sur RCFM.
Ce disque évoque bien sûr ce village, Maria Gentile, le groupe Sérinade qui a maintenant disparu. Mais Maria Gentile, Jean-Pierre Lèche, vous qui êtes le premier magistrat de la commune, vous me faisiez signe qu'elle est née juste en dessus là.
Oui, Maria Genti, elle est née à Olette, au hameau de Romanache, qui est juste au-dessus.
L'endroit où il y a les Martinets.
Où il y a les Martinets, voilà. Donc, les Martinets ont remplacé Maria Genti. Enfin,
c'est peut-être son âme.
C'est une figure, je dirais, importante et emblématique de la commune et même de la Corse, d'une manière générale.
Il y a une pièce de théâtre, d'ailleurs, qui a été jouée. Une
pièce de théâtre. Et nous avons aussi, au niveau de la commune, nous avons le bus de Maria Genti, qui est sur la place de l'église. Et nous avons également réalisé, dans le cadre de la mairie, si vous voulez, une bande dessinée racontant la vie de Maria Genti, avec des dessins réalisés par une jeune fille d'Olette, Corinne Hulot. Et j'ai moi-même fait les textes qui accompagnent ces dessins, voilà.
Alors,
ces planches.
Olette a bien évidemment connu, bon, Maria Genti, c'est une chose. Il y a aussi ce tableau magnifique de la Vierge à la Cerise qui était au Hameau Romanache aussi, hein, où il y a cette Vierge miraculeuse, en tout cas ce tableau miraculeux.
Non, la Vierge à la Cerise, elle est dans la Cassanie.
Non, mais il y en a une autre qui ressemble, c'est vrai.
Donc, c'est Notre-Dame de la Pitié. En fait, elle n'a pas de cerise.
Non, j'étais persuadé qu'elle avait une cerise.
Notre-Dame de la Pitié qui est effectivement. Elle aussi, d'ailleurs, a fait son miracle dans le hameau qui est au-dessus, hameau de Romanache. Mais c'est un hameau qui est chargé d'histoire. Hein. En fait, c'était un petit peu, je dirais, le premier village, quelque part. Hein, même s'il y avait d'autres maisons qui existaient, d'autres petits hameaux qui existaient un peu plus bas. Mais c'était un peu, le cœur du village à l'époque, puisqu'il y a une chapelle. Il y avait...
Mais qui est abandonné maintenant, ce hameau ?
Le hameau est abandonné. La chapelle, non. La chapelle, nous l'avons restaurée. Donc, elle est utilisée régulièrement. Et puis, en plus, est un endroit très très bel endroit. Et nous organisons un certain nombre de manifestations culturelles là-haut, notamment du théâtre, etc. Donc, si vous voulez, c'est un hameau, qui compte beaucoup, je dirais, pour les habitants d'Olette, mais qui est aussi que l'on laisse pas tomber, que l'on exploite en quelque sorte, je dirais, pour notamment des manifestations culturelles ou religieuses.
Jean-Pierre,
juste une question. Est-ce que le théâtre, est-ce que vous avez donné Antigone? Vous voyez la question, parce qu'il faudrait dire qui est Maria Gentile.
C'est l'Antigone Corse.
Bien sûr. Pourquoi?
Oui, bien sûr. Non, on n'a pas donné Antigone, mais on donnera certainement bientôt, je dirais, la pièce Maria Gentile. Peut-être pas dans cet endroit, parce que c'est un peu exigu, mais peut-être que oui. Hein, la pièce qu'a écrite Marie Ferrante.
Maria Gentile, c'est un acte de résistance.
Oui, c'est le mythe d'Antigone qui se reporte sur la Corse, effectivement.
Qui prend des risques pour aller chercher le cadavre de son aimé.
Tout à fait, absolument.
Tué par les envahisseurs.
Mais je vous donnerai notre bande dessinée, vous verrez. Comme ça, vous connaîtrez l'histoire complètement.
Oui, tout à fait. Gentil. Alors, Jean-Pierre, on se retrouve ici, dans votre commune, où c'est la 4e édition du Libro Un Paese, qui a été initié par une équipe, parce qu'on parle de Chantal Pantanache, mais il y a une équipe aussi de bénévoles autour d'elle, qui fait que cette 4e édition existe aussi.
Bah oui, il y a une association qui s'appelle Un Libro Un Paese. Chantal en est la présidente, mais il y a bien entendu du monde avec elle, autour d'elle. Et puis la commune s'implique aussi, je dirais, de manière importante, forcément, hein, dans cette manifestation. Il y a des bénévoles, mais il y a aussi, je dirais, le personnel communal qui s'implique aussi pour mettre en place toute la logistique, parce que une logistique malgré tout assez lourde. Mais bon, c'est vrai que l'essentiel au niveau de l'organisation même, je dirais, du festival, du salon, c'est l'association qui le porte.
Alors, je me rappelle, moi, d'une manifestation, les jeunes peut-être s'en souviendront pas, mais c'était les Parcours du Regard, hein, qui avait été ici aussi une promenade qui était assez remarquable. Donc on voit que ce village est vraiment tourné vers la culture. Là, ici, on sait encore les livres cette année, la culture, l'art pictural, le chant, tout est réuni sur Olette.
Eh bien, écoutez, effectivement, fait que nous souhaitons que Olette devienne la capitale de la Corse, de la culture en milieu rural, j'entends, hein, parce que je ne veux pas, bien entendu, essayer de me comparer à Bastia ou à Ajaccio ou à Corté. Mais enfin, je pense qu'on fait quand même beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de manifestations culturelles. Donc, celle-ci, bien entendu, en est une, elle est importante. Mais également au niveau, je dirais, nous avons par exemple deux musées, un musée d'art sacré, hein, qui est situé sur la commune. Nous avons aussi un centre d'art contemporain que nous avons réalisé avec Angelette, mais qui pour l'instant est une préfiguration de ce que sera le véritable centre d'art contemporain que nous réaliserons dans les années qui viennent et qui aura je dirais, lui, une dimension, je dirais...
plus régionale, voire internationale aussi.
Voilà, internationale, compte tenu, je dirais,
de la personnalité
d'Angelech et de toutes les personnes qui sont impliquées dans cette opération. Et puis, nous avons aussi régulièrement, je dirais, des expositions. Et actuellement, donc, nous avons une exposition qui démarre aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est toute la saison. Nous avons des expositions du mois de juin au mois de septembre. Et la première donc, a lieu aujourd'hui, justement le jour de l'ouverture de Olivier Paez. Et c'est Michel Pabe qui expose au Forum. Une très très belle production de Michel Pabe. Donc je vous encourage à aller la découvrir. Et puis nous avons aussi, comme vous l'avez dit, du théâtre, du chant. Et nous sommes actuellement en train de travailler sur véritablement une sorte de manifestation, même si nous faisons déjà un certain nombre de choses, une manifestation un petit peu plus importante au niveau de l'art lyrique.
Très bien. Jean-Pierre, on va y revenir.
Bah oui, mais on va aussi célébrer l'été. C'est le deuxième jour,
on y est là.
Troisième jour de l'été.
On y est là. Ouais. Et c'est la Saint-Jean demain.
Et oui.
N'oubliez pas ma fête.
Donc c'est notre fête à tous les trois.
En tout cas, merci de nous avoir accueillis. On retrouvera bien sûr l'émission Naturellement Vôtre la semaine prochaine. On parlera de l'eau, parce que Dieu sait que Jean-Pierre a des choses à nous dire sur l'eau.
À l'heure du repas,
avec quelques glaçons. Merci à Alicia Brunin et à Domé Morad qui ont réalisé cette émission en notre compagnie. Merci à Chantal Pantanal et à l'équipe qui nous a accueillis ici pour cette manifestation au Libre Un Paese qui a commencé ce matin et qui se déroule toute la journée. Merci à tous.
Merci.